Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Personne n'a jamais su où Cornelius grandit. Les bonnes gens me disaient de tout chutir. La rumeur prétendait que cet homme était meunier. Que dans tous les pays, il avait travaillé. De son air avant la farine en nuée. Toujours il séparait le bon grain de l'ivraie. Il n'avait donc connu que la vie d'errance, des coups de pied au cou. Mais notre histoire débute, ça n'a plus d'importance. Pour notre héros, une nouvelle vie commence.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec Bonaventure Gagon. Bonjour.
Bonjour.
Pour nous annoncer Cornelius, le meunier hurlant, un film de Yann Lekelec, donc qui sera proposé en projection au cinéma Le Pestel, dimanche 25 mars à 20h. Donc ça sera en compagnie du cinéaste Yann Lekelec.
Voilà.
Et donc, un film en avant-première, parce que sa sortie nationale est prévue pour quand ?
La sortie, c'est le 2 mai.
On peut parler de ce qu'est ce film, Cornelius, le meunier hurlant, ça parle de quoi ?
C'est tiré d'un livre de Pasilina, et l'histoire, c'est un meunier qui arrive dans un village. Ça doit être juste après-guerre, comme ça. Il y a pas mal de manants, de gens qui viennent un peu comme ça. Mais lui, il est un peu particulier, une dégaine un peu spéciale. Et puis, il rachète un vieux moulin qu'il va retaper. Et comme il n'y avait plus de moulin, il se trouve que voilà, les habitants sont extrêmement contents qu'il y ait un nouveau moulin, etc. Tout se passe au mieux. Sauf que cet homme-là a un problème, c'est qu'il hurle. Il hurle la nuit. Il hurle à la lune, il hurle, quoi. On ne sait pas trop pourquoi, il a un problème, quoi. Ça réveille tout le monde, ça réveille les habitants, etc. Donc du coup, ça pose un vrai problème sociétal, que les gens n'arrivent plus à dormir, donc on commence à le voir d'un sale œil, etc. Et ensuite, il est rejeté. Bon, après, ça, c'est l'histoire. Et là, Yann Lekelec qui a réécrit tout un scénario, qui est peut-être un peu loin du livre originel, mais il l'a fait à sa sauce. Ça se passe dans les Cévennes, au cirque de Navacelles, qui est un lieu magnifique comme ça. Et donc là, dans le film, il rachète pas un vieux moulin qui retape, mais il en construit un carrément au-dessus des Causses là. Et donc voilà, c'est l'histoire de ce bonhomme, de Cornelius.
Ce film, avant tout, on peut le décrire dans quel genre dramatique, comique?
Alors, c'est tout à fait étonnant, parce que moi, quand on s'est rencontré avec Yann, on discutait un peu du film et du personnage, etc. Et je sentais qu'il avait beaucoup d'envie. Et moi, j'aime assez bien quand les genres se mélangent comme ça. Donc je pense qu'il a une dimension comique, parce qu'il reprend, des gags, mais il reprend des situations, des choses. Par exemple, il y a Camille Boitel dedans, qui est un acrobate, un homme de cirque, qui est extrêmement drôle, moi que j'aime beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'il a fait aussi appel à moi pour Cornelius, parce qu'il sait que ma dimension de clown, etc. Et donc il y a tout ce pan un peu presque naïf, un peu sans doute comique. Et en même temps, il y a toute une charge, bien sûr, dramatique, et la charge de l'histoire et du conte. C'est-à-dire que pas forcément le conte dans un côté joli, gentil, poli, polissé, doux, etc., qu'on raconte, mais dans le sens aussi du conte, d'un point de vue presque violent, qui raconte une chose de la société assez dure. Donc on peut dire que, pour moi, comment je l'ai vécu, c'est qu'en effet, dans la forme, il y a toute une dimension assez comique, à la Buster Keaton, ou un peu comme ça, à se prendre les pieds dans le tapis, clownesque et assez généreuse, ou qui est ouverte, très ouverte comme ça. Et puis en deuxième toile de fond, on a une histoire assez dure, assez triste, et je trouve que c'est tout à fait un mélange délicieux.
Je pense, est-ce qu'on peut rapprocher un petit peu l'histoire de Manon des Sources aussi, avec cette cruauté des gens sur les nouveaux venants d'un territoire? Et est-ce qu'on peut, comparer cette ambiance de cruauté sociétale, hein, d'un groupe de gens envers un individu?
Ben, c'est sûr que le film, il traite de ça. Après, sa manière dont il le traite, c'est ce qui m'a aussi plu. C'est-à-dire qu'il va le prendre par le biais de l'humour, il va le prendre par le biais d'une une beauté de l'image, d'une musique. Il y a Iggy Pop qui a fait la chanson et la musique, qui chante dessus. Il y a une espèce de force comme ça. Et bien sûr que ça raconte ça. Et oui, j'allais dire aussi, dans le genre, on pourrait très bien l'attribuer au western. Et dans les westerns, il y a toujours une histoire de lutte un peu des classes, ou de quelqu'un de rejeté, ou quelque chose un peu magique avec les Indiens, une espèce de tension comme ça. Et je crois qu'il a cherché aussi à aller là-dedans, dans cette espèce de façon à la western. Et oui, ça parle de rejet, oui, ça parle de société, mais sans forcément que ce soit politisé ou même nommé. C'est-à-dire que c'est pas une leçon. Voilà, on y est. C'est surtout à voir avec... ça fait naître une émotion. Voilà. C'est pour ça que je rejoignais le conte là-dessus. Parce que le conte, il est là-dedans. Il n'est pas là pour être moralisateur ou être ceci. Il donne une histoire. Et ensuite, cette histoire, elle perce la peau pour arriver jusqu'au cœur des gens ou pas. Mais c'est avant tout organique, quoi.
Alors, ce film, il a été mis en chantier depuis quelques temps et vous l'aviez terminé en tournage l'année dernière, je crois bien. Ça a été long, ce montage en finale pour cette sortie en 2018.
Alors, Yann a commencé d'écrire bien avant le scénario. Ensuite, il est venu voir un de mes spectacles parce qu'il avait entendu parler de moi avec le Boudu, etc. Donc, on s'est rencontrés à cette occasion et on est rentré vraiment en chantier au printemps 2016, on a commencé un peu à se rencontrer, les répétitions, à discuter autour du scénario, etc. Et ensuite, le début du tournage, proprement dit, c'était aux alentours du 15 août 2016. Et le tournage a duré 2 mois. Voilà. Et ensuite, c'est ça qui est passionnant. Moi, j'ai découvert vraiment le milieu du cinéma grâce à Yann et puis toute l'équipe. Après, bien sûr, il y a tout le travail de montage qui est vraiment très important, si ce n'est le plus important du film. C'est parce que c'est là qu'on décide du rythme, on décide de quelle patte, quelle façon, quel goût va avoir le film, vraiment. Même si il se passe beaucoup de choses pendant le tournage, mais c'est là où ils ont un peu tous les ingrédients. Puis ils vont... Donc ça a pris un certain temps. Et puis ensuite, ce qui est compliqué aussi, c'est de savoir quand le film va sortir avec les diffuseurs, etc. Et pour qu'il soit bien sorti, ils se sont mis d'accord sur une date assez éloignée de ce qu'ils auraient pensé. À un moment, ça devait être l'été, après, ça devait être peut-être avant Noël, tout ça. Bon, ça, tout ça, c'est des histoires confuses pour moi, mais je crois que c'est très délicat à mettre en place ce genre de choses pour qu'il y ait une bonne sortie. Sinon, si on sort en même temps que Star Trek ou Star Wars, personne ne va voir le film. Si on sort pendant Noël ou je ne sais pas quoi, bon, il y a plein de stratégies, quoi.
Je reviens sur Yann Lekelec. Il a une certaine fascination pour des personnages un peu atypiques, des captations de personnes qui ne sont pas forcément bien insérées en société. Ça revient, je parle de deux courts-métrages qu'il avait auparavant produits, dont je ne me rappelle plus des noms précisément, c'est un peu dommage. Le Kepa
sur le Vilni.
Le Vilni, et puis le premier avec un couple de danseurs, je crois.
Voilà, avec Rosalba Torres, qui est une danseuse incroyable. Et qu'on a rencontré, qui est aussi dans le film. Et du coup, moi, j'ai adoré ces deux courts-métrages. Et en effet, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette façon, pas donneur de leçons, mais tout d'un coup, qui arrive à tordre la réalité, mais d'une façon très généreuse, qui n'est pas revendicatrice ou essayer de prouver que machin, qu'il a fait exprès de le tordre ou je ne sais pas quoi. C'est tout à fait généreux. Et du coup, ça en est très drôle. Et puis, en effet, je crois qu'il adore cette façon de travailler, c'est-à-dire avec des gens singuliers surtout, qui vont lui apporter quelque chose de qui n'est pas de la technique ou d'être un savant ou du jeu d'acteur ou très grande danseuse ou etc. Mais qui est vraiment du coup dans la singularité dans l'être vraiment de la personne. Du coup, c'est presque un rapport animal, quoi. Et c'est ce qui m'a plu aussi.
On pourrait citer aussi d'autres comédiens qui jouent dans ce film. Gustave Kervernes, très connu pour sa collaboration avec Groland en premier lieu. Et puis Denis Lavant aussi, un grand nom du cinéma français et du théâtre même aussi, et du cirque également. C'est beaucoup de personnes issues du cirque qui se sont retrouvées sur ce film.
Il y a eu Camille Boitel et moi. Il y a eu une petite troupe aussi des Cévennes qui ont fait quelques acrobaties, notamment du fil dans une partie du film. Ensuite, Denis Lavant, il appartient surtout au cinéma et au théâtre, il le dit lui-même, même s'il savait faire un flip-flap, etc. Dans Mauvais Sang, on le voit faire un peu d'acrobatie. Bon, mais surtout, toute l'équipe, etc., ça, il venait du cinéma, il savait faire ça. Christophe Pahou, Anaïs de Moustier, vraiment, c'est des gens, c'est leur métier. Moi, j'ai énormément appris avec eux. C'était un plaisir énorme parce qu'ils ont été d'une générosité immense. Denis Lavant, ça a été carrément incroyable de travailler avec lui. Il est d'une précision, c'est une flèche, quoi. C'est vraiment super. Avec Gustave, on s'est vachement bien, on a vachement rigolé. Il y avait une très bonne ambiance. Anaïs, qui était très proche, on était très proche parce que il y a vraiment deux rôles dans le film principaux, on va dire. Et du coup, Anaïs. On a eu une vraie complicité, elle m'a apporté beaucoup de choses que je connaissais pas, du cinéma, tout ça. Et puis elle a une telle exigence de travail, mais avec aussi une façon tellement naturelle de faire les choses qui était vraiment C'était très agréable à voir, puis ça apprenait beaucoup aussi.
Ce tournage qui a duré 2 mois environ a permis de vous retrouver plus ou moins tous, parce que je suppose que tout le monde n'a pas les mêmes emplois du temps. Mais est-ce que vous vous êtes retrouvé toute l'équipe de comédiens dans un même moment?
Dans le film ou en dehors du film?
Dans le tournage, pendant le tournage.
Pendant le tournage, ben ouais, on était tous logés à peu près au même endroit. Et puis on passait souvent les journées ensemble. Parfois on attend, alors on discute, on fait des conneries. Et ensuite on échange tout ça et c'est là où c'était très agréable de travailler avec ces gens-là. Il n'y avait pas d'espèce de compétition ou je sais pas quoi, ou de gens qui pensaient mieux que d'autres. Ou je sais pas, c'était hyper simple, hyper agréable. Il faut dire qu'on était dans un lieu vraiment superbe. Là, au-dessus des causes du cirque de Navacelle, c'était carrément superbe.
Ça, on peut situer à peu près où se trouve le cirque de Navacelle? Dans quel, c'est en Ardèche déjà?
Non, c'est entre Le Vigan, l'Odève, on va dire, et Clermont-l'Hérault, quelque part par là. C'est vraiment c'est coincé entre les deux départements, entre le Var et l'Hérault, je crois. Et c'est un immense cirque naturel. Et au fond, il y a un tout petit village qui est magnifique, avec une cascade, mais somptueuse, des plus belles de France, je pense, qui dévale là. C'est la petite rivière, c'est la Vis, où il y avait un superbe moulin qui est maintenant abandonné. Et c'est un endroit, c'est très fort, quoi. C'est très, très c'est superbe. Et donc, on était dans cet environnement. Pour moi, c'était très nouveau de faire tout d'un coup du cinéma. On bossait quand même beaucoup. On était, 12 heures, 14 heures des fois sur le plateau, des fois de nuit. On a eu, bien sûr, il y a eu la participation de Maggie Marin, qui est venue avec sa troupe pour faire toute une danse que je connais bien, on s'entend très bien. Ça a été un plaisir, quoi. Bon, après, il y avait aussi une tension parce que ça fout le trac et puis il faut être là, on porte quand même un projet, même si on est nombreux, mais quand on a un premier rôle avec le metteur en scène, avec Yann, il y avait une espèce de fusion comme ça qu'il fallait tenir. Ça demandait beaucoup d'efforts physiques et puis aussi d'investissement.
Tu parlais d'un vieux moulin, il a été restauré pendant le tournage ou remis en action quelque part?
Non, ce que je disais au départ,
oui.
En fait, là dans le film, Cornelius, il vient, il fabrique son moulin. Alors que dans le livre, il récupère un vieux moulin qu'il restaure. Alors que là, il fabrique un nouveau moulin. La fabrication et tous les décors ont été carrément... ça a été superbe parce que c'est pareil, la réalité est un peu tordue, c'est pas des vraies pales de moulin, c'est un peu... Ça a été comme c'est Leonardo da Vinci qui avait dessiné ce moulin. Et voilà, c'est tout à fait singulier aussi. Puis c'est en haut de ce cos, là, ça domine. Voilà, les images sont superbes. C'est carrément filmé à l'américaine, un peu. Il y a des nuits américaines. Il y a de très beaux paysages comme ça. C'est superbe.
Et je parlais de ça par rapport à la conception. Je crois avoir compris qu'il y avait toute une machinerie imaginée pour le film qui a été construite à Die. Est-ce que tu veux qu'on en parle un peu de ça?
Oui, volontiers.
Voilà. Donc il y a un peu de la fantasmagorie dans l'élaboration de ce moulin.
Oui, carrément, parce qu'on est dans un conte. Hein. On est... dans le film, il n'y a pas spécifiquement, c'est pas spécifiquement une époque dédiée à une époque où on ne sait pas exactement où on est. On se dit bien qu'on est dans un pays assez aride. Ça rappelle le western ou tout ça. C'est pas spécialement dirigé. Et donc, du coup, aussi, c'est l'imaginaire de... Voilà, ce moulin, il est un peu spécial, il a quelque chose de moderne qui aurait pu être moderne fin 19e et puis qui aurait été adapté, je ne sais pas, un espèce de truc un peu comme ça. Et puis bien sûr, l'intérieur du moulin, il a été aussi dessiné par le décorateur et il a été fabriqué par aussi par Scène Construction, là, une boîte de décors et de chapiteaux et de gradins à Die, à la Griotte. Et donc, il y avait des gros engrenages, etc. Donc, bien sûr, ça rappelle aussi, moi, je ne sais pas, du Charlie Chaplin. Il y a tout un engrenage comme ça, un peu démesuré par rapport à un moulin. Mais voilà, ça fait naître aussi toute cette ambiance du film. Elle est aussi là-dedans. Ouais. Parce que peut-être aussi, on se demande si ce n'est pas l'intérieur du cerveau de Cornelius aussi qui est magnifié dans ces engrenages-là.
Et je pensais à une chose, le cri, donc c'est toi qui les pousse ou alors il y a un apport technique pour donner de l'effet?
Alors, je pense qu'au départ, il pensait, Yann, que le hurlement, il aurait été retravaillé au niveau sonore avec des hurlements de loups, de bêtes un peu sauvages, etc., qui auraient amplifié le côté conte et puis qui auraient amplifié ce côté un peu angoissant aussi et puis qu'on finisse par comprendre que les villageois, ils commencent à être agacés de ça ou même plus qu'agacés, terrorisés, quoi. Bon. Et bon, moi, je me suis dit qu'en fait, il fallait que ce soit un vrai hurlement pour qu'il y ait une dimension qui dépasse justement, peut-être, ou qui serve encore plus le conte, c'est-à-dire que tout d'un coup, ce hurlement, il vienne d'un chagrin, il vienne du cœur, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi il crie, mais qu'en fait, ce soit peut-être, ça ne peut pas être résolu, mais tout d'un coup, il se dit, c'est sa façon d'exorciser, de sortir quelque chose qu'il a au lui, qu'il le pèse. Et donc, pour ça, je crois que Yann voulait parler de ça aussi, c'est-à-dire que est-ce que c'est par chagrin, par dépit, par immense tristesse, pourquoi il hurle, ou par colère, par défi, etc. Et ça, pour moi, on pouvait que le transcrire par un hurlement qu'il fallait le charger le plus possible. Et donc je me suis dit bon, j'en ai un peu parlé et tout, mais je me suis dit le seul moyen, c'est de hurler le mieux possible, quoi, le plus chargé possible. Voilà, pour que ça a un impact vraiment sur les spectateurs qui soient touchés, émus et aussi inquiétés pour que ça fasse vraiment pour vraiment remplir le cahier des charges du hurlement, il fallait qu'il soit un vrai hurlement humain, c'est-à-dire aussi chargé d'émotions, de chagrin, de colère, voilà. Et je pense que bien sûr ils ont gardé ce hurlement qui n'a pas été retravaillé avec des cris de loups, etc. C'est un vrai hurlement. Je pense que c'était une bonne option d'être allé dans cette direction.
Est-ce que ce cri est-il une métaphore par rapport à la douleur qu'exprime un individu face à une société, ou même pas forcément en s'adressant à une société, mais qui est perçue par la société et qui dérange?
Ah ben là, ça, pour moi, c'est sûr que ce hurlement, il raconte tout ça. Après, qu'est-ce qu'il raconte pour telle ou telle ou telle ou telle personne? C'est ça qui est beau dans une histoire. C'est-à-dire que les gens, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent sur ce hurlement. Voilà. Après, il y a des gens, ça peut être un chagrin très fort qui transmet par ce hurlement. Après, par exemple, on pourrait le voir une colère, justement, contre la société, une colère contre le sort, une colère contre Dieu, contre le fait qu'il ait peut-être refait son moulin, il l'a refait à d'autres endroits, puis ça s'est encore mal passé. Donc sa frustration, sa colère, sa haine se magnifie dans ce hurlement. Mais ça, on le laisse complètement au spectateur. Le spectateur, il est intimement lié à Cornelius par ce hurlement. Et il sait pourquoi il sait pourquoi il hurle. Mais ça, c'est intime à chacun. Je veux dire, c'est évident que tout le monde a des choses sur le cœur. Et c'est ces choses-là qui hurlent au travers de Cornelius.
L'amour dans tout ça, alors, est-ce qu'il va moduler le cri ou alors l'atténuer? On ne raconte pas forcément la fin, peut-être?
Je ne raconte pas la fin, mais en effet, il y a une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, on pense qu'elle va résoudre. Elle est presque, ça va presque se résoudre. C'est-à-dire que, pourquoi pas, une société pourrait accepter quelqu'un qui hurle. Et aussi, accepter qu'il tombe amoureux et peut-être avoir une place dans la société. Peut-être qu'il aurait été maire au bout d'un moment, etc. On se dit, ben oui, quelqu'un hurle, et bien alors, c'est pas très grave, du moment qu'on l'a accepté. Et le problème est là, est-ce qu'on est capable de l'accepter ? Et donc, par cette histoire d'amour, on est presque à croire que c'est possible. Sauf que, pour des circonstances, et aussi parce que c'est écrit comme ça, c'est pas possible qu'on accepte les gens. Voilà. Malgré l'amour, malgré la possibilité que chaque chose, chaque personne ont quelque chose sur le cœur, chaque personne est différente, eh bien, ce film, il est dramatique pour ça, parce qu'on montre qu'au bout du compte, c'est un problème de société, c'est un rejet, etc. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair.
Si,
ça va.
Si.
Ce passage au cinéma t'a marqué dans ce que tu fais, et à savoir si tu aurais pris goût au cinéma également.
En fait, pour moi, les deux ont à peu près la même essence, c'est-à-dire c'est d'offrir quelque chose, un conte, une espèce d'ambiance, un cri, un hurlement, un saut. Donc le cirque ou le cinéma ou le théâtre, ils ont la même essence, ils ont cette même envie. Alors, après, la façon de le faire est vraiment différente, vraiment, vraiment. Donc moi, j'ai été fasciné par ça. J'ai énormément apprécié. Je pense que si je pouvais refaire une expérience au cinéma aussi riche, j'irais tout de suite. Après, ce qui est étonnant au cinéma, c'est que bon, moi, quand je crée des spectacles, souvent, c'est moi qui les écris, c'est moi qui les mets en scène avec d'autres ou avec Titoun. Mais on est au jus, surtout, on décide de la lumière, de pourquoi on veut dire ça plutôt que ça, etc. Alors que là, au cinéma, c'est y a encore plus de confiance qui est demandée parce que on arrive, on ne sait pas comment l'image va être traitée, utilisée, qu'est-ce qu'on doit dire. En plus, ça se fait un peu au fur et à mesure. Il n'y a pas beaucoup de répétitions, quoique avec Yann, il y en avait pas mal. Mais sur certains films, il n'y a quasi pas de répétitions. On arrive le matin, on fait la scène, bim, bim, bam, boum, boum. Et donc, il y a un côté où ce qu'on donne, c'est donné. Et puis après, les gens, ils vont se l'accaparer au montage ou ils vont en faire quelque chose, quoi. Mais ça, c'est un endroit qui est tout à fait délicat à expérimenter, quoi. Mais en même temps, qui est très intéressant. Parce qu'on est comme, livré comme ça. Je ne sais plus qui, j'aurais été très content de citer la personne. Il y a quelqu'un qui disait, voilà, la différence entre le cinéma et le théâtre, c'est que le théâtre, c'est amoureux. Et puis le cinéma, c'est sexuel. C'est-à-dire que on ne sait pas ce qui va être pris de nous. Parce qu'on ne sait pas si on est filmé tout près. Enfin, on le sait, mais on ne sait pas du tout le rendu. On ne sait pas si on va entendre notre souffle quand on parle ou s'ils vont le gommer. On ne sait pas l'intensité de la voix qui va être passée dans le micro, plus ou moins forte ou pas. On ne sait pas si on va être pris de dos à ce moment-là ou pleine face. Bon, on n'a pas toute la tenue de ça. Donc, on est encore plus près de l'animal. On est encore plus près. Je pense que le cinéma, ils viennent filmer des bestioles, des singes, des je ne sais pas quoi. Puis après, avec tout ça, ils en font leur cinéma. Et donc, c'est moi qui aime bien ce rapport, même quand je travaille à un côté animal, un côté brut, un peu un côté sauvage, comme ça, ça m'a fasciné. Mais il faut aussi lâcher, il faut aussi savoir se dire, bon, je suis en confiance, Yann il me plaît beaucoup, on a beaucoup parlé, etc. On sait quand même la direction, etc. Mais il y avait une vraie confiance à lâcher, quoi, c'est sûr.
On revient un peu sur cette avant-première, donc dimanche 25 à 20h au cinéma Le Pestel. Comment ça va se dérouler cette soirée? Il y aura aussi un débat avec l'équipe du film qui sera présente.
Voilà, alors il y a Yann, le réalisateur qui est là. Je crois qu'avant il y a une petite tarte et un coup à boire. On voit le film. Et ensuite, il y aura peut-être des questions-réponses, ou je ne sais pas trop comment ça se déroule, mais ça va être ouvert, quoi. On va parler du film volontiers. Surtout qu'il y a Yann qui est là, qui est un sacré personnage. Il est très singulier aussi, moi. Il me plaît beaucoup, il est très vif, quoi. Et j'espère que les spectateurs resteront après, et puis qu'on en débatte un peu, quoi.
Tu parles de personnages singuliers, c'est toute une équipe de personnes singulières qui ont participé à ce film. Et malgré tout, est-ce que ça sera un film qui parlera au plus grand nombre ?
Alors ça, c'est un film qui est spécial parce qu'il est, Il est à la croisée des chemins de plusieurs sortes de films, d'univers, etc. Donc on ne peut pas dire « Ah, ben, c'est un conte pour enfants », parce que quand même, il y a des moments un peu raides, quoi. On ne peut pas dire « Ah, ben oui, c'est dramatique, c'est un film sociétal, ou c'est très dur. » On ne peut pas dire « C'est un western. » On ne peut pas trop le dire « C'est ça, ce film. » C'est ce qui m'a plu aussi. Et en l'occurrence, je crois qu'Yann, il est par contre... il s'est attelé à ce que ce film il soit vraiment pour tout le monde. Et c'est ce qui m'a plu aussi. C'est comme pour moi au cirque, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Bien sûr, il y a des références dedans, bien sûr, etc. Mais il est avant tout généreux. Et c'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire que c'est un vrai film qu'on peut le lire à différentes auteurs. Je suis sûr que les enfants vont aimer. On peut le voir d'une façon cruelle, puis on veut le voir d'une façon très drôle. Je pense qu'il est très fort pour ça, parce que justement, il est à l'orée de plein de façons, d'endroits, de lectures différentes.
La poésie dans ce film, elle se situe aux moindres pierres, aux moindres ombres.
Alors, c'est délicat de répondre, parce que moi, j'ai vu le film deux fois. J'ai vu le film à la projection équipe, c'est-à-dire la première fois qu'ils sortent vraiment le film, une fois fini, tout ça, il y a toute l'équipe qui est là. Et puis ensuite, j'ai vu le film à Belfort, il y avait un festival. Bon. Alors la première fois, moi, j'étais sur le cul, j'ai rien compris, parce que de me voir en grand écran là, pendant 1h40 ou 1h30, bon, c'est très spécial quand même. Et la deuxième fois, j'ai vraiment vu le film. Et en effet, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de poésie. La poésie, elle est là parce qu'il y a des décors magnifiques, naturels, et des décors de cinéma qui sont vraiment somptueux. La qualité de l'image là, de Sébastien, elle est superbe. C'est vraiment très lumineux, puis en même temps très fort. Et ensuite, je trouve que dans cette manière à peine ou faussement naïve du scénario, ça met beaucoup de place à de l'humour et beaucoup de poésie, justement. Qui fait qu'après, le côté dramatique, le côté vraiment de l'histoire, il prend une sacrée force. Parce qu'il y a toute cette poésie, cette délicatesse, cet humour, cette naïveté qui sont comme offertes. Après, du coup, on peut utiliser ça vraiment pour la dramaturgie.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi, en dehors du film, de ce que tu prépares avec votre troupe, le Cirque Trottola, et votre dernière création qui va être bientôt aboutie et présentée prochainement dans le nord de la France, je crois. Et donc, un gros travail aussi.
Oui, alors, on va créer un nouveau spectacle. Les premières sont à Lille le 6 avril. Voilà, on a repoussé un peu parce qu'on était en retard sur l'échéance. On a un nouveau chapiteau, on a modifié un peu le gradin. Et contrairement à Matamore, pour ceux qui l'ont vu, là où on était au fond d'une fosse, là on a comme rebouché la fosse. Et donc il y a toujours de l'acrobatie, c'est toujours burlesque, c'est pareil. On essaye d'être un peu sur les deux plans. C'est-à-dire il y a de l'acrobatie, on est au cirque, c'est burlesque. Et puis en même temps, on essaye de parler du dessous. C'est-à-dire comment les choses du dessous vont vers la lumière, s'ouvrent, sont accueillies. Qu'est-ce que le dessous? Est-ce que c'est le passé? Est-ce que c'est nos souvenirs de cirque, nos souvenirs d'enfance, nos douleurs? Et donc, on est parti un peu là-dessus, qui débouche bien sûr aussi sur le temps qui passe, le temps qui reste. Donc, on est là-dedans, on a deux musiciens qui sont Bastien et Thomas, qui nous accompagnent depuis longtemps, vraiment... C'est une troupe, et bien sûr, il y a Titoun et moi. Titoun qui est aussi dans le film, qui joue aussi une rôle de cinglé dans le film, avec Cyril Casmez aussi qui joue... Cyril Casmez, c'est un espèce de... On l'a vu dans... C'est un espèce d'homme-chien là, qui galope, là, qui est très impressionnant.
Oui, j'ai vu il y a longtemps, dans les années 80 déjà.
Voilà, dans les années 80, ouais.
On le voyait sur un lit en pyjama.
Il avait fait une pub pour Danopilo, je ne sais pas quoi.
Je crois qu'il se prenait pour un sanglier.
Oui, depuis petit, il essaye d'être une bête. Même il expliquait qu'il s'est rasé les poils quand il a commencé à avoir des poils pour que il avait appris que ça allait repousser encore plus. Et depuis petit, il est hanté par le fait qu'il est, je dirais, un gros chien ou un sanglier. Et je pense qu'il l'est vraiment. C'est ce qui fait qu'on le sent vraiment. Enfin, moi, j'adore. Et parallèlement à ça, en plus, c'est un grand comédien. Il est... Donc, voilà, il y a Titoun, il y a Cyril dans le film aussi, en tant que circassien. Et donc, la Titoun remonte sur le trapèze dans Campana. Campana, c'est le titre de notre prochain spectacle. Qu'on va jouer bientôt à Lille. Donc, on a eu beaucoup de travaux logistiques. Il fallait refaire un nouveau gradin, une nouvelle scène, etc. Y a toute une part musicale. Et puis ensuite, il y a Titoun et moi qui jouons de ça, du dessous, du dessus. C'est-à-dire, du parler de... On y voit ce qu'on veut, etc. Mais voilà... on reste très ouvert là-dessus, mais on espère qu'il cause, oui. On espère qu'il soit en même temps drôle, et puis en même temps, il y a l'acrobatie qui file des frissons, etc. Puis on espère surtout ce coup-ci émouvoir, voilà.
Alors là, c'est une parenthèse, hein, je précise bien. Contrairement aux autres créations, celle-ci ne sera pas forcément présentée au public d'Iwa avant sa tournée, dû au fait des retards et de la charge de travail encore. On espérera quand même peut-être voir ce spectacle au plus près du d'Iwa dans les prochains mois, par exemple.
Oui, oui, on espère bien. Enfin, c'est quasi sûr qu'on revienne jouer à Di. On ne viendra pas jouer les dernières. Je ne sais pas, on est en train de caler ça. On aimerait revenir peut-être en janvier prochain. Ce n'est pas sûr. Et en effet, on aurait aimé présenter les premières ici, comme on avait l'occasion de le faire, avant de partir en tournée. Il se trouve qu'on est ric-rac et que ça nous aurait pris beaucoup plus de temps de préparer les premières ici. Et on a préféré faire du bon boulot, c'est-à-dire faire des vraies premières bien à Lille. Et venir le rejouer à Di, quand il aura un peu pris de la bouteille, à mon avis, ce sera très bien.
Et puis le Boudu continue aussi son chemin en même temps, en parallèle. Et les clowns, c'en est tout avec...
On le joue de temps en temps, les clowns, avec Arletty et Zig, Dominique Chevalier et Catherine Germain. On les rejoue vraiment de temps en temps. Là, on va jouer à Vesoul, je crois, en avril. Voilà, Catherine est très occupée, moi aussi, Dominique aussi. Du coup, on a du mal à joindre nos calendriers, mais on a des demandes, alors c'est formidable, on est très heureux de ça. On a toujours beaucoup de plaisir à le jouer. Et puis après, par le Boudu, moi, j'adore le jouer, donc il continue à jouer. Bon, là, j'avais un peu levé le pied parce qu'on était en création, puis qu'on aime bien être en immersion un peu pour créer. C'est sûr que si je partais, tac, une semaine, ça stoppait un peu les chantiers, tout ça, donc voilà. Mais je vais le reprendre, là, à partir de juin, je reprends, ça joue. Ouais.
Ça se passe comment, la création d'un spectacle, avec ses doutes, avec ses angoisses
Alors là, c'est... c'est beaucoup de... J'imagine que c'est différent pour chaque personne qui crée un spectacle, etc. Il y en a qui, ça se trouve, adorent ça, c'est très léger, tout ça, ils se marrent et tout ça. En l'occurrence, moi personnellement, après il faudrait poser la question à Titoun, à Bastien, à Thomas, tout ça. Moi, j'ai énormément de doutes, c'est très flou pour moi, on avance un peu à tâtons. Après les choses se jalonnent petit à petit, puis on arrive à avancer, puis on finit par y arriver. Mais voilà, j'ai souvent l'impression que ça nous tombe un peu dessus, puis après les choses s'embriquent malgré soi, mais ce qui, j'espère, n'est pas le cas, qu'on a quand même une part de responsabilité. Mais ouais, pour moi c'est assez hasardeux, c'est assez spécial, quoi. Mais je pense que c'est aussi le fait de se laisser aller à ce hasard qui fait qu'on arrive à quelque chose de sensible, qui fait qu'on s'autorise à pas tout maîtriser, etc. Le clown, par exemple, dès qu'on veut tout maîtriser, c'est sûr qu'il s'éloigne un peu, le clown s'éloigne un peu, quoi. Alors, on approche souvent, on essaye de s'apprivoiser un spectacle, on n'essaye pas le dompter.
Quel est le sentiment que tu as vécu en étant au milieu de comédiens comme Denis Lavant
Alors, le fait d'être... c'est très étrange, parce que c'est pas un milieu que je connais, etc. Il y a genre 40, des fois 50 personnes autour de là où ça tourne. Tout d'un coup, il y a une espèce de tension, tout le monde s'affole, et puis tout d'un coup, il y a du silence. Silence est demandé, attention, moteur, machin, action. Et puis là, il n'y a plus que toi qui est au milieu du truc. Donc c'est assez inquiétant au départ. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est électrisant. C'est-à-dire que ça met aussi dans une puissance, dans un endroit qui est pas très rassurant. Donc du coup, ça pousse au jeu. Bon, ça, c'est pour l'environnement. Puis après, voilà, de jouer avec Denis Lavant, moi, je ne l'ai pas vu du... Moi, c'est... Voilà, par exemple, quand je joue avec Titoun, je vois pas Titoun, je vois son personnage. Moi, c'est ça que j'adore. Quand je joue avec Arletty... Je ne vois pas du tout Catherine Germain, je vois ma grande copine clown. Et du coup, et c'est ça qui est fascinant, par exemple, Denis Lavant, il joue là le rôle du docteur. Bah, tout de suite, il a une telle force de jeu qu'il t'embarque. Donc si tu veux, après, tu n'es plus du tout dans un rapport de se dire « Ah, c'est un grand... » Tu te rends compte presque le soir, tu te dis « Ah putain, d'accord, ok, il m'a porté vraiment, il était porteur, il est une générosité. » Parce que, alors on doit faire, il y a tout un truc technique où il y a les champs, contre-champs, c'est-à-dire un coup, etc. Et puis quand on fait le contre-champ, c'est-à-dire la caméra n'est pas sur soi, mais elle est à côté de nous, pour que la personne, comme s'il y avait un dialogue, voilà, ben, en contre-champ, Denis Lavant, il aurait pu se contenter de me donner une réplique sans jouer, etc. Et puis du coup, c'était à moi de me débrouiller. Mais là, il jouait presque encore mieux, comme pour me porter, que je joue encore mieux, parce qu'on est tous là pour faire un film. Donc c'était un vrai bonheur, quoi. C'est, travailler comme ça, on sent une telle générosité de la part des gens, que c'était magnifique, quoi.
La petite question, c'est justement, dans un plan de dialogue entre deux comédiens, il y a deux caméras, enfin deux plans de vue, deux points de vue différents, un à l'épaule de l'autre, et puis pareil pour l'autre personnage. Ça se passe avec deux caméras ou alors une seule et ça veut dire que vous rejouez tout à fait les scènes doublement.
Voilà, alors généralement... il va y avoir, s'il y a une... Enfin, généralement, sur ce film-là, après, par exemple, s'il y a une discussion entre deux personnes, généralement, il va y avoir un plan qu'on dit un peu large, qui va prendre la discussion à peu près de loin, comme si on était une tierce personne à quelques mètres, et on voit. Donc, ils ont ça dans la boîte, on va le jouer peut-être 7 fois. Ensuite, la caméra va se placer derrière l'épaule d'un des deux protagonistes, et là, on refait encore la scène, par exemple, 7 fois. Ou 5, ou 4, ou 12. Bon. Et puis ensuite, la caméra se met à côté de l'épaule de l'autre personne, comme si, en fait, du coup, ce qui fait qu'après, au montage, ils vont prendre plutôt telle scène-là, ils vont équilibrer la scène en disant, on commence, par exemple, la discussion un peu de loin, puis ensuite, on se met à la place d'un des deux pour quand l'autre parle, comme si il vous parlait à vous, spectateur, et vice-versa. Comme ça, on rentre encore plus dans l'intimité. Mais c'est bien sûr avec une seule caméra. Souvent, ils prennent deux caméras. C'est sur quand il y a des plans très larges. Là, il y a eu deux caméras. C'est quand il y avait tous les danseurs. Il y avait presque 70 personnes qui étaient dans le plan, dans le champ. Donc, du coup, au lieu de refaire à chaque fois, il y avait une caméra qui était plus ponctuelle sur un tel ou un tel personnage et puis une autre sur une vue d'ensemble. Ce qui fait que ça économisait de faire et refaire et refaire plein de scènes pour 70 personnes. Du reste, sur l'un, on avait terminé très, très tard. Heureusement qu'il y avait ces deux caméras, par exemple.
Eh bien, bonne aventure Gacon, merci d'être venu nous présenter et nous parler de ce film, donc Cornelius le Meunier hurlant.
Merci Yves Glorian, merci beaucoup.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Voici venu le temps du village hurlant, sans moulin, ni farine, ni potager charmant. Plus un seul étranger, un pays désenchanté. Les graines de Cornelius ont fini par pousser. Du ventre de Carmen, un beau bébé est né. Tout de main dans la main, il mène et si tu es triste, attends, tu viens où elle est. Les cheveux dans le vent, la chanson du meunier.